Oui, alors juste pour revenir sur les syndicats, alors il y a clairement une méfiance. Alors les partis sont pas présents et de toute façon il y a une volonté qu'ils soient pas présents aussi de la part des Gilets jaunes.
Pardon, s'ils sont pas présents, c'est à drapeau déployé tout du moins. Peut-être qu'ils sont présents.
Oui, à titre individuel, ouais. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de. Comme les Gilets jaunes ont été très clairs là-dessus au départ, de fait, il y a peu de récupération politique de possible et de fait. Et par rapport aux syndicats, donc il y a une même méfiance, mais il y a aussi du coup quand même une présence de certains militants syndicaux, je pense surtout à Sud et à la CNT, mais où du coup c'est des militants qui sont très très clairs sur... qui ont des positions très claires par rapport à ce mouvement-là, qui n'ont pas de volonté de se réapproprier, qui font attention à ne pas étouffer les Gilets jaunes par trop de présence syndicale. Du coup, c'est plus pour faire un peu un lien un peu aussi avec le milieu salarié, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Par contre, oui, il y a une méfiance envers la CGT, mais qui est assez justifiée, parce que du coup, il y a quand même eu une manif, donc au d'abord à l'initiative des Gilets jaunes, mais qui a été reprise par les syndicats, donc c'était le 5 février, qui a été appelée grève générale, ou je ne sais plus trop. Et donc à Poitiers, il y a quand même eu pas mal de monde, la manif était assez dynamique, il y avait moitié syndicaliste, moitié Gilets jaunes à peu près, et il y a eu quand même la possibilité d'envahir la mairie, donc c'était assez sympa. Et après, il y a eu une AG de proposer qui aurait dû être une AG Gilets jaunes syndicats, avec vraiment l'idée de se converger. Et en fait, assez vite, tout le monde s'est rendu compte que c'était une AG de la CGT, avec une tribune de la CGT, et que ça va vraiment être compliqué de converger avec eux.
Xenia ? Oui, ouais. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie ambivalence dans le... Enfin, d'un côté de l'autre, que ce soit du Gilet jaune ou des parents des syndicats, c'est qu'il y a une méfiance de la part des Gilets jaunes, mais qui en fait, souvent en manif, reprennent des champs syndicaux. Et avec, par exemple, cette arrivée en AG des diatribes contre les syndicats. Mais effectivement, à cette manif-là, il y avait quasiment autant de Gilets jaunes que de syndicalistes. Alors, est-ce que c'est... Il y avait des vrais Gilets jaunes, si je puis dire. Mais est-ce que c'était aussi des syndicalistes qui... montrer leur désaccord avec leur syndicat qui mettait le gilet jaune et pas le badge, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y avait une grosse proportion. Et surtout, on a senti l'énorme gêne de la CGT, c'est-à-dire que les gens étaient dans la mairie, la CGT voulait partir, et la CGT ne pouvait pas partir, parce que si elle partait, on sentait clairement, enfin, ils sont partis, ils sont revenus, il y avait vraiment une espèce de le cul entre deux chaises, quoi, on ne savait pas trop où se mettre. Et c'est vrai que c'est une situation relativement inédite.
Et ça ramène bien au troisième trait marquant quand on parle des Gilets jaunes, c'est leur pugnacité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de lâcher du tout, hein, et qu'il y a une grande implication des personnes dans leur mouvement, hein, dans notre mouvement, quoi. En fait, cette colère qui anime les Gilets jaunes les rend très très déterminés, et elles se montrent capables de modifier leurs interventions en fonction de l'actualité. On l'a vu tous ces derniers mois. Il y a eu lors de la marche pour le climat, lors de la grève, journée de grève là dont tu parlais, lancée le 5 février par les syndicats, à la journée internationale des femmes du 8 mars, il y a eu une convergence partielle des cortèges. Et à Paris encore, samedi dernier, il y avait trois manifs, hein, celle des Gilets jaunes, la marche du siècle et la marche contre le racisme d'État et les violences policières. Et on a vu des Gilets jaunes partout. Il y en a qui ont fait deux ou trois, voire les trois manifs, mais il y en avait en tout cas partout.
Ouais. Oui, et à Poitiers même, il y avait trois propositions de rassemblement ce samedi-là. Donc il y avait un rassemblement pour le droit à manifester, il y avait un rassemblement de DNSI, d'ailleurs nous sommes d'ici, et les Gilets jaunes ont finalement appelé à aller aux deux. Et du coup, en fait, finalement, il y a eu une convergence des trois composantes pour pouvoir manifester ensemble. Et aussi, je pense au fait qu'il y a aussi des actions, donc ils investissent effectivement d'autres secteurs par solidarité. Et je pense notamment aux Blancs, où du coup il y a une lutte depuis un moment déjà contre la fermeture de la maternité, où du coup il y a eu une manif Gilets jaunes sur ce sujet-là qui était plutôt sympathique. De manière générale, en tout cas, il y a la volonté de quand même un peu de converger, même s'il y a une méfiance des syndicats, et aussi de se coordonner entre régions. Par exemple, la samedi, un appel à aller à La Rochelle. Voilà.
Voilà. Et donc, bon, si effectivement le nombre de manifestants et manifestantes a baissé par rapport au début du mouvement, les chiffres qui sont rendus publics sont soumis à caution pour deux raisons. Hein. D'abord, ils émanent seulement du gouvernement. Et ils sont contestés à la fois par les Gilets jaunes et par le syndicat de policiers CGT ou même BFM à certains moments. Et d'autre part, les multiples initiatives des Gilets jaunes qui ont lieu partout ne sont pas comptabilisées. Hein, ce sont uniquement les manifs des villes un peu importantes qui sont prises en compte par l'État. Et encore à Toulouse, hein, où il y a eu plusieurs manifs de suite, où il y avait plus de 10 000 personnes, la préfecture a refusé ensuite, pendant des semaines, de donner des chiffres. Elle parlait juste de milliers de manifestants. Et il a fallu attendre le 9 mars, où comme il y avait moins de monde, elle a annoncé 3 à 4 000 personnes. Et samedi dernier à Paris, pareil, la seule manif qui a été évaluée, c'est celle qui était estampillée gilet jaune, alors que comme j'ai dit, il y avait des gilets jaunes partout.
Oui, mais effectivement, c'est un peu compliqué d'avoir des chiffres aussi au niveau local parce que, en fait, du coup, le gouvernement, les médias, ne comptabilisent pas toutes les manifestations qui se passent aussi sur des plus petits villages et sur, en fait, toute la mobilisation qu'il y a autour des ronds-points. Et bah, par exemple, par chez nous, bah, en fait, en dehors de Poitiers-Châtellerault, bah, en fait, il y a aussi, des collectifs à Loudun, à Chauvigny, à Saint-Savin, Lussac. Et dans les Deux-Sèvres aussi, Pampe, au-delà de Niort et Parthenay, bah, il y a Thouars, Bressuire, Mel, Limalonge même, etc. Et d'ailleurs, il y a même une copine qui nous a transmis ce petit témoignage où elle dit qu'en fait, fin décembre, un samedi de décembre, où en fait, elle constate que les médias notent un taux de participation particulièrement bas, elle est surprise de voir que sur un tout petit rond-point dans un village, en fait, bah, quand elle y va, il y a 50 personnes et qu'il y a un roulement assez impressionnant. Donc, elle a du mal à estimer sur la journée, mais ça représente du monde quand même pour une zone comme celle-ci. Donc, en fait, les gens, ils sont là, ils tractent, il y a des pétitions, il y a une tente et des toilettes déjà installées, il y a du café. Donc voilà, finalement, c'est pas les chiffres ne sont pas représentatifs de ce qui se passe, localement, quoi. Oui, je peux peut-être terminer sur le témoignage où elle raconte aussi, par contre, que donc les gendarmes sont présents aussi à ce moment-là et qu'en fait les rapports avec les autorités sont toujours un peu ambigus parce que, par exemple, là, elle note que il y a des gendarmes qui veulent prendre un café, il y a une première femme qui refuse, mais que finalement les autres lui disent si et. Donc là, ça va peut-être nous permettre de parler un peu du rapport à la police et la répression.
Si voilà, oui, parce que dans les points caractéristiques donc, des Gilets jaunes, par rapport à ce mouvement, c'est la violence de la répression qui a été exercée par le gouvernement contre les Gilets jaunes qui est tout à fait remarquable par sa force. Parce qu'au départ, le gouvernement a laissé occuper les ronds-points. Hein, et il a cherché des interlocuteurs pour négocier parce que les Gilets jaunes pouvaient être des électeurs potentiels. Et puis aussi parce que ce mouvement était très populaire. Hein, les sondages le disaient et tout. Et maintenant encore, le nombre de Gilets jaunes qui sont mis à l'avant des véhicules dans certaines régions montre que ce mouvement reste très populaire. Hein, contrairement à tout ce que la presse et tout ça voudrait dire. Ça reste très populaire. Mais ensuite, le gouvernement a tenté par de multiples moyens de casser ce mouvement. Hein, il l'a dénigré en disant que c'était un mouvement réac, fasciste, même antisémite quand Finkielkraut s'est fait insulter à la manif parisienne du 16 février. Le gouvernement a aussi dénoncé la casse des commerces, la dégradation de l'économie en général. Il a tenté la diversion avec le grand débat. Il a tenté la division entre les bons manifestants, qui seraient les gilets jaunes, et les casseurs. Et la dissociation n'a pas marché.
Bah non, mais même plus que ça, le rapport à la violence, en fait, a vachement changé. Parce que au début, il y avait effectivement cette dissociation casseurs, où les gens disent « nous, on n'est pas des casseurs ». Et un peu un rapport à la volonté, en tout cas, de rester dans certaines formes de légalité. Et en fait, ça a vite volé en éclats, déjà par expérience de la répression, et puis par une colère qui n'est pas entendue et qui s'exprime, quoi. Du coup, on se retrouve avec des témoignages de, d'une personne, par exemple, bah, en fait, qui n'a jamais tellement milité de sa vie, puis certainement qui a fait partie des personnes qui ont été les premières à critiquer les grèves, les blocages qu'il y a pu y avoir auparavant, et qui dit ouais, finalement, l'émeute, on y prend goût. Et que, en fait, assez vite, il y a un côté assez assumé de cette casse et de cette, et cette violence. Et il y a aussi un peu, bon, un peu toujours cette idée d'avoir un rapport de force. Bon, qui est un peu toujours ambigu aussi, parce qu'il y a toujours une histoire un peu d'avoir une forme de légitimité par rapport aux forces de l'ordre. Ça m'évoque une manif à Poitiers qui a été un peu compliquée. On n'était pas très nombreux, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de policiers, et que du coup, ils nous ont vraiment empêchés de manifester. On a dû rester sur le trottoir, et effectivement, c'est humiliant et c'est pas très agréable à vivre. On manifeste quand même. Et je pense qu'il y a, pour beaucoup de gens, il y avait un peu ce propos de dire on est nul, on n'est pas efficace, les flics se moquent de nous, on se moque d'eux, au final on s'en fiche, mais voilà, il y a toujours un peu ce rapport un peu bizarre. Mais du coup, avec une répression très très forte, et je voulais juste, peut-être avant que Daria tu t'interviennes sur la répression, je voulais juste un peu parler du 9 mars, donc la dernière grosse manif à Poitiers. Du coup, la préfecture avait posé une interdiction de manifester. Il y avait une très très forte présence policière, avec donc des flics en civil, des baqueux, mais aussi des CRS, qui avaient complètement bloqué en fait la place du marché. Du coup, toutes les personnes qui voulaient accéder à la place, en plus c'est un samedi, donc c'est un jour de marché, il y a beaucoup de monde, donc se faisaient contrôler et fouiller. Donc les flics ils ont fouillé le parking souterrain, ils ont même fouillé l'église, et la brigade de la BAC faisait le tour des cafés pour contrôler un peu tout le monde, vérifier le contenu des sacs. Voilà, donc c'était assez impressionnant, et du coup voilà, une manif complètement cadenassée, avec vraiment une difficulté à pouvoir mettre en place action ou autre chose, quoi.
Tout à fait, parce que sur cette question du volet répressif du mouvement, c'est vrai qu'il y a quand même assez longtemps qu'en France, on n'avait pas vu, France métropolitaine, tout du moins, un tel déchaînement de répression. On va quand même indiquer quand même que Amnesty International a commandé une enquête, un rapport. L'ONU a quand même demandé une enquête. Et quand même, ironie du sort, la Turquie et l'Iran ont quand même vivement houspillé la France pour son traitement des droits de l'homme. Bon, bien sûr, c'est probablement un pied de nez de la part de ces régimes à la France. Néanmoins, ça donne un petit peu de l'écho que ça a pu avoir au niveau international. Et effectivement, la répression a été vraiment multiforme. Tout d'abord, en fait, par la mobilisation des effectifs de police, puisqu'on a eu vraiment des effectifs mobilisés à plein temps, à tel point, en fait, que ceux-ci, en janvier, ont lancé un mouvement de grève. Enfin non, ils n'ont même pas lancé un mouvement. Ils ont menacé de lancer un mouvement et ils ont obtenu une prime. Certains luttent depuis très longtemps et n'ont malheureusement pas obtenu grand-chose jusque-là. Bon, à chaque samedi, en fait, c'est tout le territoire français qui est quadrillé par les forces de l'ordre. Comme tu l'as évoqué, Xintia, la manif du 9 mars a été entièrement bouclée. On peut même dire, malheureusement, que c'est la police qui a dirigé la manifestation, puisque c'était vraiment là vous partez, là vous faites ci, là vous faites ça. Par exemple, pour ce week-end, on a, sur 60 compagnies de CRS, on a 58 qui sont mobilisées, sans compter, bien sûr, tous les gendarmes mobiles, policiers, nationaux, tous ces corps de contrôle et de répression qui sont mobilisés. Ça arrive parfois à Poitiers qu'il y ait des contrôleurs de bus qui soient mobilisés pour effectuer des rôles d'observateurs. On a aussi une nouveauté relativement inquiétante tout de même pour ce samedi, à savoir la mobilisation de l'opération Sentinelle, donc des militaires qui sont déployés pour sécuriser les lieux publics, sachant que leur rôle va être de libérer des forces de police habituellement dévolues à ce rôle-là pour que ces unités de police puissent aller faire du maintien de l'ordre, sachant que le gouverneur militaire de Paris a annoncé que les soldats avaient l'ordre de tirer au cas où il y aurait une menace envers leur vie ou la vie des personnes qui le protègent. Mais celui-ci a précisé que les ordres sont suffisamment clairs pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude à avoir. Bon, parfait, nous voilà rassurés alors, puisque les ordres sont clairs. Au niveau du panel répressif, on a pu constater le retour, par exemple, des ce qu'on appelle les voltigeurs, donc des brigades de motocyclistes, de policiers qui sont là pour vraiment chasser les manifestants. On les a vus notamment à Toulouse ou à Paris, et certains sont équipés de flashballs pour pouvoir tirer sur les manifestants. Sachant que ces unités de police avaient disparu en 86 suite à la mort de Malik Hossekin. Qui avait été tabassé dans une manif. À Paris, on a pu voir le retour des blindés de la gendarmerie qui d'habitude sont très souvent déployés en fait dans les territoires ultramarins français pour rétablir l'ordre néocolonial. On les voit assez peu en métropole, donc ça montre quand même une certaine montée de la violence. On a pu aussi avoir, ça c'est, les informations sont assez difficiles à trouver dessus, mais par exemple il y aurait eu la BRI qui serait intervenue dans le cadre des manifs. Donc la BRI, c'est des unités de police qui sont spécialisées dans les interventions violentes, bien souvent antiterrorisme, grand banditisme. Donc ils ont été déployés dans le cadre de ces manifs. Il y a eu tout un tas de nouveaux armements, de nouveaux équipements qu'on a pu voir sur le terrain. Il y a aussi donc la question des blessures qui ont été très 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 nombreuses quand même récemment, puisque l'utilisation massive de flashball et de LBD, mais aussi de grenades Gli F4, donc qui sont des grenades explosives, ont entraîné des blessures très graves mutilation, éborgnement, enfin on est vraiment sur des blessures assez assez graves. Au 30 janvier, Libération notée 144 blessés graves, 14 éborgnés. Bien sûr, ces comptes rendus en fait ne prennent en compte que les blessés pris en charge officiellement par les services de santé. Donc en fait, on ne prend pas en compte toutes les autres personnes qui ont pu être matraquées ou même simplement gazées, puisque le fait de recevoir une grenade lacrymogène à côté de soi, est-ce que c'est pas le fait d'être blessé, puisque il y a déjà une incommodation qui est créé. Au 13 février, il y avait 174 enquêtes ouvertes auprès de l'IGPN pour des questions de violence policière, donc ce qui laisse quand même ce qui questionne sur la question de l'utilisation de la force par la police. Il y a tout de même une femme aussi qui est morte à Marseille suite en fait à un choc opératoire dû à l'irruption d'un palais dans son balcon, mais le parquet de Marseille a décidé d'ouvrir une enquête sur ça. Sur la question judiciaire, alors c'est assez compliqué, mais pour l'instant, en décembre, on était déjà à plus de 3300 arrestations. J'ai pas les chiffres plus récents, malheureusement, mais c'est très important. Sur la question légale, il y a eu la loi anti-casseur qui a été passée, qui est en fait une prolongation un petit peu de la loi antiterroriste qui a été constitutionnalisée, donc avec des interdictions de manifester. Sachant que là, c'est pas les juges qui prennent la décision, mais c'est vraiment les préfets. Donc on a vraiment un déploiement tout azimut de la répression pour faire taire ce mouvement. À Poitiers, pour sûr, pour ce que j'ai pu en lire dans la presse locale, on a au moins 26 arrestations qui ont donné lieu pour sûr à un enfermement de 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, une personne qui a écopé une assignation à résidence les jours de manif, tout un tas d'amendes, de comparutions immédiates, souvent pour des faits quand même relativement mineurs, qui sont outrage, rébellion. On a aussi des banderoles qui ont été confisquées sur certaines manifestations. Donc on a vraiment un déploiement tout azimut de la répression. Cet élément, enfin là sur le point de la répression, on va boucler puisqu'on va devoir passer à autre chose. Et on va passer à un petit extrait musical, on ne passera pas la chanson en entier. C'est This is La Peste, Grande Colère, une chanson qui ne manquera pas de vous rappeler l'actualité.
Les impôts, les huissiers, tous vos confrères. J'suis en grande colère. Les contrôleurs qui se cachent dans le RER. J'suis en grande colère. Des prix en faute, va falloir que tu payes. J'suis en grande colère. Les radars placés pour se faire de l'oseille. J'suis en grande colère. Les radios, les émissions de merde. J'suis en grande colère. Y'a un fou par jour dans les faits divers. J'suis en grande colère. Les collègues qui balancent pour une promotion. J'suis en grande colère. À la télé, la séquence d'émotion. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère.